France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Morgane Danan, Martine Moni, Romain Masson, Samuel Rosano, Stéphane Poitevin et Olivier Dehaye. Voici la quatrième émission de notre série consacrée à Édouard Elgar. Vous pouvez retrouver les trois premières sur notre site francemusique.fr. Quatrième de cinq émissions qui va nous entraîner aujourd'hui dans les dernières années de la Belle Époque avec des partitions des années 1910-1913, donc au début du règne de Georges V. Elgar a 53 ans, 1910, il est anobli depuis 6 ans, c'est Sir Édouard Elgar. La réputation de Sir Édouard Elgar a franchi les frontières de l'Empire britannique et le violoniste viennois Fritz Kreisler lui commande un concerto dont voici les dernières pages, interprété par le tout jeune Yehudi Menuhin sous la direction du compositeur.
Thank you.
Juillet 1932, au légendaire premier studio d'Abbey Road à Londres, l'Orchestre symphonique de Londres était dirigé par Edward Elgar pour accompagner le violon d'un Yehudi Menuhin de 16 ans, dont le concerto qu'Elgar avait composé 22 ans auparavant pour Fritz Kreisler. Une célèbre photo montre Menuhin tout de blanc vêtu, partition en main, debout à côté d'Elgar qui s'appuie sur sa canne et qui témoigne de cet enregistrement de 1932, 2 ans avant la mort du compositeur à l'âge de 76 ans. Pour l'heure sur France Musique, c'est donc un cinquantenaire dans la pleine force de l'âge que nous célébrons aujourd'hui. Elgar qui présente en 1911 sa deuxième symphonie en mi majeur, mi bémol majeur, en opus 63. C'est une symphonie numéro 2 que Elgar a dédiée à la mémoire du roi Édouard VII, disparu l'année précédente en 1910. Partition qui a été enregistrée justement par Yehudi Menuhin, non pas en tant que violoniste, mais en tant que chef d'orchestre. Et des 4 mouvements de cette symphonie numéro 2 d'Elgar, j'ai choisi pour vous le deuxième, le mouvement lent Larghetto, qui est le cœur émotionnel de la partition. On a longtemps pensé qu'il s'agissait d'une marche funèbre à la mémoire du roi défunt, mais les manuscrits montrent qu'Elgar avait entamé ce Larghetto avant la mort du roi, et que cette musique serait plutôt une réaction artistique à la mort d'un ami proche, Alfred Rodewald, qui fut le premier à diriger Pomp and Circumstance, d'où certainement le caractère très personnel de cette musique, ici interprétée par l'Orchestre Philharmonique Royal, dirigée en 1990 dans ce même studio numéro 1 d'Abbey Road par Sir Yehudi Menuhin, futur Lord Menuhin. Thank you. sœur Yehudi Menuhin dirigeait la musique de Sir Edward Elgar à la tête de l'Orchestre Philharmonique Royal dans le deuxième mouvement de la symphonie numéro 2 en mi bémol majeur, l'opus 63, dont Elgar avait dirigé lui-même la création en 1911 en obtenant un succès mitigé pour cette partition. Alors l'optimisme impérial des œuvres précédentes d'Elgar était peut-être assombri par l'esprit du temps, par cette belle époque qui sentait venir, sans le savoir ou sans vouloir le reconnaître, le spectre de la guerre, de la Grande Guerre. Peut-être s'agit-il d'une surinterprétation de cette marche funèbre liée à la passation de pouvoir entre feu Édouard VII et Georges V, grand-père d'Élisabeth II. Georges V est couronné le 22 juin 1911 au son de nombreuses musiques, dont ce chœur spécialement composé par Elgar et qui reprend les premiers mots du psaume 5e. « Écoute mes paroles, comprends ma plainte, entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi, ô mon Dieu ». O hearken thou unto the voice of my calling, my King and my God. Le deuxième verset du psaume 5 était ainsi mis en musique par Edward Elgar pour la cérémonie du couronnement du roi George V en 1911. Et nous écoutions le chœur du festival de Brighton et l'orchestre de concert de la BBC dirigé par Barry Wordsworth.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Ce chœur, c'est la contribution intime, spirituelle d'Elgar à ce couronnement, mais on lui doit également une partition plus éclatante, plus extérieure, mais quand même, me semble-t-il, très émouvante. Il s'agit de la marche du couronnement, qui ne pouvait être qu'une fanfare pompeuse, mais dont la tonalité mineure semble encore porter le deuil du précédent souverain. En tout cas, c'est une marche du couronnement qui ne ressemble à aucune autre. Voici cet opus 65 de Sir Edward Elgar, interprété par des musiciens inattendus. Ce sont les Gabrielli Players de Paul McCreesh, qu'on entend surtout dans de la musique de la Renaissance et du premier baroque, comme leur nom l'indique, Gabrielli Players. Mais pour un disque de 2018 intitulé An English Coronation, un couronnement anglais, 1902-1953, McCreesh et ses Gabrielli Players jouent aussi cette marche du couronnement opus 65 d'Elgar.
Thank you.
Sur France Musique, vous venez d'entendre la marche du couronnement de George V en 1911, musique signée Sir Edward Elgar et interprété par les Gabrielli Players, dirigé par Paul McCreesh. Alors après son couronnement à Westminster, le nouveau souverain et son épouse vont voyager dans l'immense empire britannique et c'est en tant que empereur des Indes qu'il va assister à une cérémonie traditionnelle, le Darbar, D-A-R-B-A-R, qui est une audience publique du souverain donnée depuis des siècles en Inde. Et lors de ce Darbar de 1911, George V annonce notamment le transfert de la capitale de Calcutta à New Delhi. Des photographies témoignent de la somptuosité de ce Darbar, de cette cérémonie indienne avec des carrosses tirés par des éléphants, des corps d'armée au garde-à-vous, des tentures, des soieries et autres turbans. Un événement qu'Edward Elgar va musicalement commenter en Angleterre, au Théâtre Coliseum de Londres, en mars 1912, dans un spectacle de Henry Hamilton, d'une heure environ, un spectacle dont Elgar écrit la musique de scène. C'est une partition coloniale, donc, dont le titre est « La couronne de l'Inde, The Crown of India ».
Thank you.
avec quelques accents orientaux, mais sans aucune prétention ethnomusicologique. C'était un extrait de La Couronne de l'Inde, The Crown of India, opus 66 d'Edward Elgar, par l'orchestre philharmonique de la BBC, dirigé par Sir Andrew Davis. Voilà donc trois partitions qui nous montrent le compositeur officiel Elgar, le chœur et la marche du couronnement, ou encore cette musique de scène coloniale. Mais Elgar avait également une muse plus intime que l'on perçoit dans sa musique de chambre, dans ses concertos, comme le concerto au violon qu'on écoutait tout à l'heure, ou dans certaines pages d'oratorio, comme par exemple The Music Makers, les faiseurs de musique, une cantate de 1912 sur un poème d'Arthur O'Shaughnessy, un poème assez faible d'ailleurs. Mais c'est une musique de premier ordre que propose Edward Elgar, qui avait dirigé la première de ses Music Makers à Birmingham, partition dans laquelle le compositeur revient sur son passé en citant des œuvres antérieures comme les Sea Pictures, comme Le Rêve de Géronte, ou comme les variations, la variation Nimrod qui ouvrait une des émissions de cette série, la variation Nimrod, qui est la plus célèbre des variations Enigma qu'on écoutait intégralement hier, et c'est une des mélodies les plus poignantes de toute la musique anglaise.
Today is free.
La soprano Sarah Connolly, avec le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC, était dirigée par Sir Andrew Davis dans un extrait de la cantate The Music Makers, opus 69, partition qui nous emmenait en 1912, l'année des 55 ans de notre héros de ce début de semaine, Edward Elgar.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Elgar, qui a peut-être été un peu déçu par la faiblesse du poème qu'on entendait d'Arthur O'Shaughnessy dans The Music Makers, Elgar va se plonger dans l'univers du grand barde anglais William Shakespeare, et plus précisément dans les pièces qui mettent en scène le truculent Sir John Falstaff, dont la bedaine, la filouterie et les mésaventures avaient génialement inspiré Arrigo Boito, librettiste de l'ultime chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi, le Falstaff d'Elgar n'atteint évidemment pas au génie de Verdi, mais c'est une partition de véritable jubilation orchestrale, de fantaisie et de plaisir simple, dont Elgar avait dirigé la création en 1913 au Festival de Leeds, Falstaff opus 68, dont voici un large extrait, toujours par cet orchestre philharmonique de la BBC, dirigé par Andrew Davis sur France Musique et francemusique.fr.
Thank you.
la marche du roi Henri V. C'est le bannissement et la mort de Falstaff qu'Edward Elgar évoquait dans cette partition de 1913. Falstaff, opus 68, par l'Orchestre Philharmonique de la BBC, dirigé par Andrew Davis. Et nous arrivons bientôt au terme de cette émission consacrée à la fin de la Belle Époque dans l'œuvre d'Elgar. Demain, nous serons en pleine guerre, la grande guerre des Tommies, des soldats britanniques, à laquelle le vieux compositeur va musicalement participer. La guerre éclate le 28 juillet 1914 et trois semaines plus tard, le 15 août 1914, Sir Henry Wood dirige au Queen's Hall de Londres une partition annonciatrice de bien des soupirs à venir. Sospiri, c'est le titre en italien de cette partition d'Elgar, opus 70, partition qui nous permet d'entendre ici l'orchestre de l'Académie de Saint-Martin-des-Champs, Saint Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. Sospiri, opus 70 des Soupirs d'Edouard Elgar, interprété par l'orchestre de l'Académie de Saint Martin in the Fields, dirigé par Sir Neville Mariner. Et je salue une auditrice qui a corrigé une mauvaise traduction. Je vais présenter cette pièce qu'on entend là il y a 15 jours, les Fairy Pipers d'Elgar, en traduisant Pipers par joueurs de cornemuse. Mais c'est en Écosse que les Pipers sont les joueurs de cornemuse. En Angleterre, ce sont les joueurs de flûte de pipeau, comme celui que vous entendez derrière moi, Lionel Esparza. Bonjour Lionel.
Mais moi je le savais, vous l'auriez demandé, je vous l'aurais dit.
Parle,
ah ouais, de là, il savait rien du tout. Bon, Elgar, sa voiture, et elle revient demain, si je comprends bien.
Il est impayable. Oui, absolument. Et demain, c'est Elgar dans la Grande Guerre qui participe musicalement à l'effort avec les Tommies. Voilà. À demain.
Merci François-Xavier.
À réécouter sur francemusique.fr.